RMC Running, la dernière danse.
Yoann Durand, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Une nouvelle étape va être franchie aujourd'hui dans RMC Running. Et oui, le lancement d'une très belle opération qui est fondée sur notre vedette, notre maître Yodu, le meilleur coach de France, mais toujours athlète de haut niveau, Yoann Durand qui est avec moi. Salut Yodu.
Salut Benoît, salut à tous.
Comment ça va?
Bah ça va impeccable, écoute. On sort d'une belle opération UTMB.
Magnifique.
Et crac. On repart sur une nouvelle.
Voilà. Même pas
24 heures de repos. On renchaîne direct.
Pas de répit, c'est parti. Ça. On entre de plein pied dans l'opération. Dernière danse. Et oui, on est très fiers de porter cette opération qui va marquer un tournant une nouvelle fois dans RMC Running. Vous le savez, notre spécialité, c'est d'encadrer comme ça des athlètes amateurs, de les aider à obtenir le meilleur résultat possible, notamment sur marathon. On va reproduire cette opération, mais elle sera un peu particulière cette fois-ci parce qu'elle sera centrée sur Yoann Durand, notre athlète de haut niveau, notre coach préféré. Le dernier marathon à perf de Yoann à Valence le 6 décembre prochain, c'est dans 94 jours.
Ouais.
Voilà, donc
performance, je l'espère, hein. c'est pas dit. En tout cas, on va se donner les moyens pour.
On va lui mettre une vraie pression, rassurez-vous. Donc le but, ça va être de tout raconter et vous allez voir, on a composé une équipe d'experts autour de Yoann, portée notamment par Enduro. Vous connaissez la marque Enduro désormais fondée par Joseph Mestrallet. On a Anthony Saliou qui est cofondateur avec lui. C'est les spécialistes des stats, l'analyse des data justement dans la course à pied. Pour optimiser tous les facteurs, on a également Alice Michel qui va nous rejoindre, qui est notre diététicienne nutritionniste. On a évidemment plein de spécialistes. On a commencé les tests aussi. On parlera de bilan sanguin parce qu'on l'a fait pour démarrer cette opération, Yoann. On sera avec Max Berthelot, qui est le fondateur de Lucis. Vous allez voir, c'est un organisme spécialisé justement dans le traitement des bilans sanguins avec 110 biomarqueurs qui sont analysés. Donc on y va tout de suite. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour la dernière danse. Et on peut faire appel donc à toute l'équipe qui est présente. Anthony Saliou qui est avec nous, donc cofondateur d'Enduro Performance et Data Scientist chez Enduro. Salut Anto.
Salut Benoît, salut l'équipe.
Salut.
Ravi de t'accueillir dans cette belle aventure. Vous serez un peu ceux qui chapeauteront tout ce beau projet pour aider Yoann à aller atteindre la meilleure perf possible à Valence. Donc soyez les bienvenus. Joseph et toi, on va se régaler avec vous durant ces 14 semaines de préparation.
Bah merci beaucoup, ouais, ça va être 14 semaines assez intenses. On va essayer de pousser un peu Yoann sans trop changer ses habitudes, mais tout de même en apportant des nouvelles briques. Donc on a déjà pu en discuter un petit peu ensemble, mais très très content et fier de faire partie de ce projet-là. Ouais.
Eh bien écoute, plaisir partagé. L'idée aussi de mettre Enduro au cœur du projet, c'est aussi d'apporter de la pédagogie dans les sujets un peu techniques, Yoann. Et ce qu'on fera chaque semaine, donc il y aura évidemment le suivi de préparation, mais il y aura aussi des sujets traités. Et ça va démarrer très fort en fin d'épisode, vous verrez, avec le sujet des montres connectées. Est-ce qu'on utilise bien les montres connectées? Est-ce qu'on se sert bien des champs de données proposés? Eh bien Anthony a préparé ça et il sera là pour vous apporter des réponses. Une amie d'RMC Running est là également, vous commencez à vous habituer, mais on est ravis qu'elle participe à l'aventure. C'est Alice Michel, notre diététicienne nutritionniste, vice-championne de France de marathon. Salut Alice.
Salut, salut à tous. Ravi d'être avec vous aussi pour accompagner Yodu sur cette prépa de dernière danse pour aller à Valence.
Magnifique, merci Alice. Qui de mieux placé qu'Alice, vice-championne de France de marathon et diététicienne pour t'accompagner sur une prépa marathon. Là, on va pouvoir se régaler avec tous les bons conseils d'Alice. On peut également accueillir Max Berthelot, je le disais, donc des labos Lucis, qui nous a permis de faire des bilans sanguins complets. Salut Max.
Salut, merci beaucoup.
Eh ben, écoute, sois le bienvenu. Ravi de t'accueillir ici dans cette aventure aussi, parce qu'on a fait les bilans sanguins, mais tu vas nous accompagner toi aussi. On va voir justement quelle complémentation on peut apporter à notre alimentation et à notre sommeil.
Avec tout ça, tu veux pas y perdre.
Ah ouais, Yoann, ça lui met une pression folle, je sais
Je me suis engagé dans quelque chose.
Il y a quand même une équipe incroyable.
C'est plus le roi à l'erreur.
Là, c'est magnifique, effectivement. On remercie les sponsors de Yoann qui vont nous accompagner aussi sur cette belle aventure, notamment ASICS, qu'on est ravis d'avoir parmi nos partenaires. Yoann, démarrons très simplement. Explique-nous pourquoi tu te lances dans ce projet, où tu en es dans ta carrière de haut niveau et pourquoi tu as envie comme ça aujourd'hui de partager cette prépa qui sera si particulière.
Bah, où j'en suis, je suis un peu, c'est vrai, entre, à la frontière entre deux mondes et surtout la fin d'un premier, c'est-à-dire que, voire d'un troisième, parce que j'ai commencé par la piste jusqu'en 2015 et en 2014, je commençais à saturer un peu du 1500, du 5000, de ce milieu-là. Je prenais moins de plaisir dans la pratique de la piste et je me suis dit, il faut relancer ma carrière, il faut que j'aille sur marathon, il faut que je me lance sur la route. Chose que j'ai faite pendant une dizaine d'années et aujourd'hui, je ressens de nouveau cette fatigue mentale, cette usure et cette envie surtout de découvrir une nouvelle façon de s'entraîner, des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'en 2027, j'ai l'ambition de basculer sur le trail pour découvrir, pour repartir de zéro, relancer une nouvelle carrière totalement différente avec un effort qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu pendant les 25 premières années de ma carrière sportive. Et je me disais, ouais, comment terminer la boucle du marathon de haut niveau à performance et comment basculer sereinement avec l'esprit libéré et de se dire, vas-y, je range les baskets, je range les chaussures légères au placard et je prends les chaussures trail. Et quoi de mieux que cette histoire, quand on a pitché le truc, de se dire, bah, j'ai envie aussi de montrer ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau. Quand on imagine un sportif de haut niveau, on le voit une semaine par an, la performance qu'il va faire, le sommet de l'iceberg, mais on ne voit pas tout le travail de fond que nécessite une préparation marathon ou une préparation de 5000, de 10000, de cross ou quoi que ce soit. C'est des mois de travail avec des galères, des moments de down, à mon avis, des moments où ça va être un peu plus compliqué, comment il faut faire des efforts sur tel ou tel système autour de son environnement. Et du coup, c'est pour ça que on a lancé ce projet-là et qu'on souhaite montrer au monde comment vit un sportif de haut niveau avec tout ce qu'il y a autour, à savoir aujourd'hui les données scientifiques, les datas, l'alimentation et comment on peut modifier son entraînement, comment on est à l'écoute de tout son staff autour de soi pour pouvoir faire la meilleure performance possible. Et ça, c'est vrai que ça a quasiment jamais été fait. On voit pas les entraînements, la plupart des athlètes de haut niveau le cachent. Moi, vous aurez accès à tout mon Strava, on aura accès toutes les semaines à tout ce que j'ai fait, à toutes mes données de santé, enfin il y aura tout, et comme ça les gens pourront s'identifier et voir exactement comment ça se passe. Ouais.
C'est tout l'intérêt de ce projet, c'est pourquoi je me permettais de dire qu'on franchit un nouveau palier avec cette histoire dans RMC Running. Vous êtes des habitués du podcast, vous nous écoutez régulièrement. On occupe certainement vos sorties de récupération ou même vos sorties longues le week-end, mais là, c'est un vrai projet digital qu'on vous propose, c'est-à-dire que tous les contenus seront disponibles sur YouTube dès ce premier épisode. D'ailleurs, allez le voir sur YouTube parce qu'il y a des images à exploiter. Il y aura des données traitées par toute l'équipe d'Enduro. Et nous, on va faire vivre ce projet sur le digital. On verra ta préparation, tes entraînements, tout au long des semaines comme ça qui vont se dérouler. Il y aura des points d'étape importants qu'on va détailler dans un instant. Et c'est ça aussi, Anthony, qui vous a convaincu, vous, Enduro, de nous suivre dans ce projet. C'est aussi montrer l'apport de la data dans un projet comme celui-là.
Ouais, complètement. C'est le cœur de notre métier au départ. On a commencé nous plutôt avec le trail, surtout Joseph qui est dans la vallée de Chamonix. Donc il a pu rencontrer pas mal d'athlètes à qui il a parlé de ce projet-là au départ et il s'accompagnait sur des grandes courses. Donc en trail, alors on a beaucoup de facteurs qui viennent influencer la performance. Donc on a commencé à bosser sur le pacing, mais en fait le pacing tu le construis bien que quand tu comprends tous les entraînements qui se font autour pour t'amener au jour de la course. Donc voilà, on a construit ces outils-là, on a compris l'entraînement pour amener un pacing, on l'a fait pour le grand public, mais quitte à passer des heures à développer des algorithmes, à traiter des données, etc., on s'est dit, mais quand même, il faut en faire profiter le plus grand nombre. Et c'est notre philosophie aujourd'hui qu'on fait à travers justement des outils qui permettent aux gens d'analyser leurs séances un peu plus loin que ce que peut faire Strava, Garmin, ou Coros ou Sunto. On aura l'occasion d'en reparler. Et justement, d'amener un pacing de course optimal pour le jour J aussi, pour Yuan.
À tous ceux qui nous écoutent, si vous découvrez Enduro aujourd'hui, vous ne découvrez pas vraiment, parce que si vous êtes sur Strava, vous avez déjà les Enduro Reports. Donc quelque part, Anthony et Joseph sont déjà dans votre vie quotidienne, comme ça, quand vous voyez Enduro Reports. Voilà.
Ça fait du bien de voir que finalement, ouais. on a perdu du temps grâce à la
météo, vous la a coûté météo, 3 secondes.
Voilà, c'est ça. L'allure, ça me rassure.
Ouais.
Donc c'est pas un outil d'excuse non plus.
C'est sûr. Mais c'est l'idée aussi à travers ce projet. Et moi, je suis ravi de t'accompagner là-dedans aussi, Johan, parce que je vais essayer de me mettre dans les mêmes conditions que toi. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis un athlète amateur. Donc, c'était l'intérêt aussi qu'on avait, Anthony, c'était de prouver comment l'exploitation de la data, le fait de pousser tous les gains marginaux, le sommeil, la nutrition, la récupération, comment ça peut aider à la fois un athlète professionnel et un athlète amateur à progresser, à aller chercher la meilleure performance possible.
Bien sûr, et c'est en poussant tout au maximum qu'on voit aussi, en fait, plus on va avoir de facteurs exploitables, donc ce qu'on va venir faire autour de Johan, plus on va pouvoir retirer certains exploitables pour les amateurs, parce que effectivement les amateurs n'auront pas le même écosystème que va avoir Johan mis à sa disposition, mais on va donner des outils. Nous, avec Enduro, on développe des outils. Le travail que fait Alice de nutritionniste, il y a énormément d'amateurs qui travaillent avec des nutritionnistes aussi. On pourrait aussi parler de prépa mentale, ou même maintenant, les données de suivi. On a les capteurs Circa, donc proposés par Garmin, Whoop, les Bagoura, pour en citer quelques-unes, qui permettent de prendre les métriques justement de forme avec le sommeil, etc. Et donc ça, voilà, c'est très accessible, on le pousse au max, et après chaque amateur voit ce qu'il veut en tirer, ce que lui a envie de mettre en place, parce qu'on sait aussi que c'est des sacrifices. On a eu l'occasion d'en discuter un peu, Johan, hein, mais il faut avoir envie, il faut se mobiliser, il faut communiquer, et donc ça, le mettre en place sur ce projet, c'est aussi permettre aux autres de voir ce qu'ils peuvent, eux, utiliser chez eux. Ouais.
Dire que quand je l'ai connu, il était anti-data, anti-tout ça, et là, il va tout nous montrer, quoi. Tous ces données de sommeil, la variabilité cardiaque et tout. Johan, t'as changé, quoi.
Non, mais bah, j'ai changé parce que au cours de ta carrière, t'as pas toujours les mêmes envies. 2015, 2016, 2017, je faisais prise de lactate. Je pense que j'étais l'un des premiers athlètes de haut niveau à faire les lactates.
Lactate, c'est la prise de sang immédiatement après la séance, après l'effort
pendant ton effort. Exactement. Et après, j'ai arrêté parce que je trouvais que je perdais, justement, j'étais trop dans le contrôle et j'en avais un petit peu marre. HRV, c'est pareil, je faisais du HRV, j'ai arrêté aussi à un moment donné. Sauf que voilà, t'as des moments où des fois, bah, t'as envie de courir au sens... Enfin, dans la carrière d'un sportif, t'évolues dans beaucoup de choses. Et sauf que pour le dernier marathon, pour mon dernier grand défi, effectivement, j'ai envie de mettre tous les atouts de mon côté et ça en fait partie. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de montrer ce qu'est la vie d'un sportif de haut niveau. Et donc, toute cette partie immergée que les gens ne s'imaginent pas, c'est ça que j'ai envie de montrer. Et à quel point... Bah, le sportif de haut niveau, il va être comme tout le monde, toi et moi. Bah, il y aura des lundis matins où on va débriefer et toi, ça se sera très bien passé et ça aura été beaucoup plus compliqué pour moi ou inversement. Et la course à pied, malgré tout, c'est le même effort. Après, c'est juste les allures qui diffèrent, mais les doutes, les machins, les blessures, les pathologies, les arrangements de séances et tout ça, c'est la même pour tout le monde. Hein.
Ça, c'est sûr. Mais c'est ce qui a aussi convaincu Anthony et Joseph. Et c'est le premier discours qu'ils nous ont tenu, c'est de nous dire il faut que vous soyez vous aussi pleinement motivés, sinon ça ne fonctionnera pas.
Ah ben, les datas, c'est sûr que si... Vu que,
il faut un engagement total, sinon on ne le fait pas. Ouais.
Effectivement, parce que effectivement, ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à tes entraînements. C'est beaucoup de données en plus qu'il faut assimiler, auxquelles il faut faire confiance. Parce que là, c'est pareil, c'est pas faire de la data pour faire de la data. C'est une fois qu'il y a un résultat, c'est aménager l'entraînement et être capable de dire ok, bah là je ralentis ou là je peux y aller. C'est pour ça que c'est hyper excitant à l'idée de démarrer cette prépa marathon pour voir justement tout ça. Ouais.
Alice, ça fait plusieurs mois que tu collabores avec nous, tu nous as suivis sur les dernières aventures de prépa de Marathon de Paris. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu comme ça de nous accompagner dans ce beau projet? Ce qui est assez drôle avec toi, c'est que t'es un peu le trait d'union entre nous, parce que t'es toi aussi une athlète amateur, mais qui a un très haut niveau. Je le disais, vice-championne de France, tu sors de 2 mois à Foromeux, où là, t'as côtoyé effectivement certains des meilleurs coureurs français. C'est marrant pour toi aussi de suivre à la fois Johan et puis un amateur comme moi, quoi. C'est un beau projet pour toi aussi.
Moi, je trouve ça super intéressant dans le sens où tout va être ouvert au grand public et aux amateurs. Et en fait, ça permet vraiment de montrer tous les aspects de la prépa d'un athlète de haut niveau ou plutôt amateur dans ton cas. Mais comme ça, ça permet de voir, en effet, le sommeil, la prépa physique, la prépa mentale s'il y a, les datas, la nutrition. Et c'est tous les aspects qui sont vraiment à côté de l'entraînement et qui permettent de pousser la personne à son meilleur niveau et d'essayer de maximiser vraiment ses performances. Donc c'est vrai que c'est plus l'ouverture, moi ce qui m'a intéressé c'est vraiment l'ouverture au grand public et de montrer tous les à côté de la vie d'un sportif de haut niveau que je trouve c'est vraiment intéressant, et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de Français qui se déplacent pour le marathon de Valence. C'est un événement quand même assez important pour les coureurs français. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir se projeter et s'appuyer aussi un peu sur ce qui est dit et ce qui est fait pendant vos deux prépas, vos prépas respectives, et pouvoir aussi se donner un peu une idée de se dire bon bah là en effet je suis sur les grosses semaines d'entraînement comme Johan et Ben, bah peut-être qu'en effet moi aussi il faut que je fasse plus attention au sommeil, il faut que je fasse plus attention à l'apport qualitatif et quantitatif au niveau de la nutrition. Et donc ça peut leur donner une idée et suivre aussi un peu pour eux de leur côté la prépa quoi.
On va manger beaucoup d'haricots verts, parce que là, je vois le synthé sur YouTube, vous irez voir ça. La nutrition, facteur clé de Johan, mais surtout Benoît. Je sais pas voilà. Comment je vais le prendre.
C'est les frites, bon, ouais. Les frites au bureau,
ouais,
interdit.
Ouais. Là, on va souffrir, Alice, c'est ça, ce qui nous attend pendant 14 semaines.
Je suis pas sûre que ce soit vraiment souffrir, hein, parce que moi, je pense qu'il faut pas mal de glucides, de féculents sur les prépas marathon. Alors, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui va être matière grasse, acides gras saturés et tout, bon, il va falloir diminuer tout ça, mais bah, il faut de l'énergie, il faut des calories et il faut des glucides complexes. Donc, les assiettes, ça va pas que être haricots verts et... Combien de kilos
dans un retour de vacances pour Benoît?
Je crois que je suis à 73 kilos, je crois.
Au lieu de...
Ah, il n'y a pas d'au lieu. Pourquoi au lieu?
C'est quoi ton poids de forme?
Je sais pas, je déterminerai avec Alice et Anto et Joseph, j'en sais rien.
D'accord.
Mais moi, ça fait partie des idées reçues que j'ai, et c'est pour ça que je suis ravi aussi de collaborer avec vous, des spécialistes. C'est qu'on a fait ces sujets aussi dans RMC Running, mais comment on détermine un poids de forme, etc. Moi, j'ai quelques convictions qu'il faudra combattre. Hein. Peut-être qu'elles sont bonnes, peut-être qu'elles sont fausses, Anto et Alice, mais je suis persuadé que je pense qu'il faut que je perde du poids. Je suis persuadé que je connais parfaitement mes allures marathon, etc. Mais c'est à vous de m'aider à combattre toutes ces idées, quoi. Voilà, donc ça va être assez marrant. Sur la perte de poids, les immolos sur Johan, sinon on le verra plus. Donc il y a un moment, il faudra arrêter. Ça, c'est sûr.
Ouais, il revient de Chamonix, ça fait plaisir, je suis sûr.
Ah bah oui, ouais. T'as mangé du fromage?
Une fois, j'ai fait une partie de flex samedi soir. Ouais. Samedi soir, je me suis dit, je peux pas quitter Chamonix. En plus, il faisait froid samedi soir. Je me suis dit, je peux pas quitter la Savoie sans me faire une petite tartiflette.
Et ouais,
je me
suis régalé. Tartiflette du mois d'août, tout ce qu'il faut.
Oui, mais Chamonix, il faisait, je sais pas, 10-15 degrés.
Ouais, hein. Ça reste la montagne, ouais. Effectivement. Johan, on va très vite parler d'objectifs aussi. On a démarré la collaboration RMC Running 2021 quand tu venais de frapper très fort 2h09-21 au marathon de Paris. C'était exceptionnel à l'époque, hein, de voir des Français sous les 2h10. Qu'est-ce qu'on va viser pour cette prépa? Est-ce qu'en tête, tu as déjà un chrono de rêve? Est-ce que tu te fixes comme ça des battements, des objectifs plan A, plan B, plan C? Ou est-ce que tu laisses venir et tu décideras après?
Non, je laisse vraiment venir. Mon plan global, c'est de vraiment kiffer cette dernière prépa marathon et de prendre du plaisir dans celle-ci. Il faut savoir que je pars avec une petite douleur au tendon d'Achille qui m'a embêté un petit peu cet été et qui, je l'espère, ça commence vraiment à me libérer et à être beaucoup mieux. Tu vois, la semaine dernière, j'ai pu remettre une semaine de volume plutôt bonne avec plus de 100 km. Donc voilà, je pars pas sereinement parce que j'ai cette petite épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui est là et qui me fait peur sans me faire peur. Et je pense que c'est vraiment la prépa qui dictera les allures. Mais juste kiffer ce marathon et surtout tourner la page du marathon sans avoir de regrets et se dire que le dernier marathon, au moins j'aurais fait le nécessaire pour essayer de faire la meilleure performance possible. Et après, ça passe ou ça passe pas. Voilà, il y a 2 ans, j'ai fait 2h11.55, je crois, à Valence. Je démarrais plus en retard que maintenant, je pense, en septembre. Et en décembre, j'ai pu faire un chrono comme ça. Donc, je pense que j'en suis largement capable de redescendre sous les 2-12. Mais voilà, il faut que tous les voyants soient au vert. Et effectivement, on verra, on fera des points intermédiaires pour savoir où je pars, sur quelle allure je pars. Ouais.
Tu pars d'une semaine à 108 km. Hein, donc
ouais, mais c'est le D+, c'est comme les montagnards. Ouais, là, il faut regarder le D+. J'ai fait 1400 mètres de D+, ouais. Ce qui pour un routard, ouais. 1400 mètres...
C'est 1400 fois trop.
Ouais. C'est 1400, ouais, plus qu'à Valence. Ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Il y aura des grandes étapes dans cette belle aventure de la dernière danse. Il y aura le 20 km de Paris qui sera un premier point de passage.
Oui.
Toi, il y aura des stages à Font-Romeu qui seront prévus. On essaiera d'ailleurs de faire vivre ça au maximum sur nos réseaux sociaux. On aura une sorte de répétition générale qui sera prévue aussi au semi de Boulogne-Billancourt, un des semis les plus rapides de France, Johan. qui sera là effectivement à 3 semaines de l'échéance, avec l'idée de répéter de l'allure marathon pour voir si on est dans de bonnes conditions pour le 6 décembre.
Ouais, exactement. Bah, alors après, ça c'est propre à chacun sur la planification de son objectif marathon. Moi, je sais que j'aime bien mettre des dossards, donc j'ai toujours eu envie de courir le 20 km de Paris à fond, et puis il est quand même assez tôt dans la prépa, donc sans forcément avoir fait de travail spécifique, mais pour voir un petit peu où j'en suis. Après, j'ai le semi de Valence, pareil, que je voudrais courir assez rapidement. C'est pareil, là c'est une répétition un peu générale parce que tu es quand même dans les rues de Valence où tu vas être 6 semaines plus tard, donc c'est un peu au milieu de la prépa pour faire un point de passage aussi, de voir où est-ce que tu en es au milieu de prépa pile exactement. Et puis après le semi de Boulogne, moi c'est pareil, j'aime bien quand même, bon ça sera pris dans une semaine de travail et à allure marathon, mais j'aime bien mettre des dossards pour te rassurer et casser la monotonie de l'entraînement, sachant que surtout moi j'ai pas beaucoup couru cette année encore, donc j'ai quand même envie d'épingler des dossards, et je trouve qu'il n'y a rien mieux que la compète pour soit te rassurer, soit te donner des vrais indicateurs, parce que l'entraînement, même si c'est toujours un peu plus compliqué quand tu es tout seul sur ta ligne droite chez toi, je trouve que mettre des dossards pour tester en grandeur nature toutes les stratégies dont on va parler, hein, les ravitaillements aussi, même si je suis à mon 7e ou 8e ou 9e marathon, je ne sais même pas, il y aura peut-être une nouveauté pour moi, à savoir que j'aurai peut-être plus accès à mes ravitaillements personnels. Et donc oui. ça va être aussi un gros changement pour moi de faire comme monsieur et madame tout le monde, à savoir avoir ses ravitaux sur soi. Ça aussi, ça sera quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Ouais.
Justement, ces grandes étapes, on les a validées ensemble, Anthony, parce que c'est important pour vous qu'il y ait quelques dossards accrochés durant cette prépa. On l'a dit, rompre la monotonie, mais surtout pour vous, donner des points de repère au niveau des datas pour savoir où en est l'athlète, en fait.
Ouais, complètement. Alors, il y a une petite anecdote sur le 20 km. C'est cool que tu veuilles la faire à fond, parce que c'est ta plus mauvaise performance, Johan, à la table hongroise sur la World Athletics, tu vois. Donc, il faut aller chercher un peu ça. Ça donne plus de points sur 800 mètres. T'as plus de points sur 800 que sur 20 km.
C'est énorme, exceptionnel.
Mais j'avais payé Benoît et Nasser.
C'est vrai,
c'est pour ça.
Le pire, c'est que c'est vrai.
J'aurais pas dû passer la ligne. J'ai attendu 20 minutes en bas de chez lui, là.
C'est vrai, en plus.
L'année
dernière, il a attendu. Il a mis le clignotant au 10e, il m'a attendu. Et puis après, on a fini ensemble. Ouais. Désolé, c'est de ma faute.
Ouais, c'est lui le responsable.
Bon, là, tu courras à fond cette fois. Là, il n'y a pas de réseau. Ouais.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Justement, on parlait du préambule, d'avoir toutes les données possibles à exploiter pour Anthony et pour Joseph sur ses débuts de préparation. Vous avez fait un test physiologique à Chamonix dans les bureaux, ou alors oui, dans les locaux d'Enduro, les labos d'Enduro, Johan. On pourra faire un épisode dédié à ces tests physio, parce que ça peut concerner tous les coureurs sportifs, les pros et amateurs qui nous écoutent. On a quelques images d'ailleurs dispo sur YouTube. Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots ce test qu'on exploitera un peu plus précisément d'ici quelques semaines? Qu'est-ce que tu as fait, Johan, exactement?
Moi, c'est où je vais laisser... on a fait un test pour déterminer les différents seuils.
C'est test sur tapis.
Test sur tapis, avec un protocole qui augmentait la vitesse de 0,5 km/h toutes les minutes, jusqu'à presque ce que mort s'en suive.
Et comment on voit quand t'es mort?
C'est quand le tapis va trop vite pour toi.
Quand tu sautes.
La vraie difficulté, c'est donc de courir sur tapis avec le masque qui prend les échanges gazeux et qui est un petit peu gênant. Tu verras, tu vas le faire la semaine prochaine. Et donc ça te permet d'avoir une vraie un peu carte d'identité et de dire à tel moment de la préparation, voilà, je vaux ça, je suis à tant de BPM à telle allure, mes seuils sont ceux-là, 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 et de pousser ensuite et d'adapter l'entraînement en fonction des résultats. Ouais.
Ouais, Anthony, nous on parle toujours de carte d'identité du coureur, là c'est totalement ça, avec ses données, avec ses repères, vous avez une bonne base pour lancer le travail?
Ouais, tout à fait. Alors c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un test du coup en reprise aussi. Hein. Yoann parlait de ses problèmes au tendon et donc d'un retour finalement à l'entraînement récent. On est à 1200 mètres d'altitude aussi à Argentière quand on fait le test, donc ça influence forcément. Mais oui, disons qu'on a la photographie d'entrée, on aura une photographie en cours du coup. On essaiera de le faire donc autour soit du semi de Boulogne-Billancourt, soit du 20 km de Paris. Après, bien sûr, pour te laisser un max de force, et puis on aura l'état des lieux à la fin. Là, ce qu'on a déterminé principalement, c'est effectivement ces ventilateurs 1 et 2 pour à peu près situer ton allure marathon par rapport aussi à ce que tu avais déjà fait. Donc, on a toutes tes données passées, ce test-là, il n'est pas non plus isolé. Hein, on va le coupler aussi avec tout ton Strava qu'on analyse, enfin, auquel on a accès au quotidien pour regarder un petit peu comment se comporte tes métriques, justement, ta fréquence cardiaque associée aux allures, etc. Donc voilà, là, c'est la porte d'entrée à la planification de l'entraînement pour la suite et la vérification que physiologiquement, tu réponds bien à l'entraînement. Quoi.
Voilà. Autre devoir de vacances qu'on a réalisé, Johan, c'est cette fameuse prise de sang poussée.
Oui.
On peut en parler donc avec Max Berthelot, le cofondateur.
C'était moins dur que le test.
J'ai pas fait le test encore. J'ai souffert de la prise de sang.
La prise de sang, c'est pas bien.
Au début juillet, j'étais déjà en souffrance.
Il y a pas mal de gens qui...
Il a fait une syncope.
Non, alors on va vous raconter. Effectivement, moi qui n'ai pas l'habitude d'en faire, ça fait 15 ans que j'avais pas fait une prise de sang. C'était important de le faire. Et merci à vous parce que on s'est contacté comme ça à la hâte. On a pu faire ces prises de sang assez tôt dans l'été pour avoir les résultats pour lancer cette opération. Je précise donc, Lucise, donc tu peux nous présenter ce que c'est, un peu analyse de résultats sanguins en collaboration avec des laboratoires tout partout en France.
L'idée de départ de Lucise, c'est de rendre accessible la prévention. Donc c'est pour ça que le projet nous a plu, parce que vous êtes dans le partage de data, la transparence. Et donc c'est un peu notre objectif au départ, c'est de rendre accessible ce qui normalement était réservé jusqu'à présent à des gens qui avaient beaucoup d'argent. La prévention, on va faire des tests dans des cliniques privées en général, et on va faire toute une batterie de tests. Là, vous avez fait le test de VO2 max. On va normalement, évidemment, dans une clinique privée, on va faire plus de tests, mais il y a une information qui est hyper intéressante, c'est le sang. À partir du sang, en fait, c'est le meilleur raccourci pour savoir quel est l'état de santé d'une personne à un instant T, c'est d'aller regarder les marqueurs sanguins. Et donc, on a construit l'ICI autour de ce concept de rendre accessible la prévention slash aller chercher dans les marqueurs sanguins tout un tas d'informations et donner à un individu le contrôle sur sa santé et de lui expliquer juste simplement voilà où on se situe. Est-ce que d'un point de vue médical, évidemment, on est malade ou on n'est pas malade? Ça, c'est le laboratoire qui regarde ça, et nous, on va aller regarder les marqueurs en fonction des normes de optimisation, performance, longévité. Ça va dépendre des projets. Donc vous, ici, on est dans la performance sportive. Donc vous allez regarder les marqueurs d'un certain angle, on pourra en parler avec Alice. Mais et donc nous, on va les regarder soit sur un angle longévité, et donc on va toujours regarder chaque seuil, et on va regarder par groupe de marqueurs. Et donc on va aider les gens à prendre conscience. Voilà la photographie de votre état de santé à un instant T, et voilà ce qu'on vous propose de mettre en place. Et donc ça va aller vers de la nutrition, de l'exercice, potentiellement de la supplémentation quand la nutrition n'arrive pas à combler les carences, de la santé mentale, des conseils sur le sommeil. Et donc j'aime bien dire que Lucy, vous avez une Whoop, une Garmin ou une Oura qui va vous dire si vous dormez mal. Et nous, on va vous expliquer pourquoi vous dormez mal. Et souvent, votre Whoop va pas vous dire pourquoi vous dormez mal. Et nous, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a telle carence, parce que vous avez un cortisol, l'hormone du stress qui est trop élevé, vous êtes trop stressé, etc. etc.
Voilà.
Donc c'est tous ces marqueurs, tout cet ensemble de marqueurs qu'on va regarder.
110 marqueurs analysés, et surtout c'est accompagné d'un questionnaire très complet, parce que c'est ça aussi qui vous aide à déterminer justement les besoins, les carences, le passif de la personne qui passe ce test sanguin, que ce soit par rapport au tabagisme, à l'alcool, à ce genre de choses, à l'âge.
Il y a tout le...
effectivement des patients qui veulent avoir un bilan sanguin complet. Tu l'as fait, Johan, il y a longtemps que tu n'avais pas fait une prise de sang, ou tu le faisais régulièrement en tant qu'athlète de haut niveau?
Je faisais une prise de sang assez régulièrement, surtout quand j'étais dans les suivis avec l'équipe de France. Ça, c'était, avait quasiment 6 par an, donc presque tous les 2 mois. Ça faisait partie du suivi longitudinal.
Mais avec l'analyse des résultats, tu
comptes... On avait un retour que quand c'était pas bon. C'est-à-dire que quand c'était... quand tu étais à peu près dans la norme, tu n'avais pas de retour du médecin. Et le jour où tu avais quand même une problématique, là, pour le coup, il revenait vers toi. Mais 110 marqueurs comme ça, j'ai jamais fait. Et un questionnaire aussi complet à remplir avant la prise de sang, j'ai jamais fait non plus. Effectivement, tu avais dans les suivis que je faisais, tu avais 2 feuilles à remplir. Tu mettais si t'étais fatigué, ce que tu mangeais. Et puis
là, il y a tout, consommation de café, les habitudes, les heures de coucher, les heures de réveil.
Le contexte est hyper important. Et donc on va vraiment regarder. C'est pour ça qu'on vous pose autant de questions. Et c'est pareil, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes qui testent Lucy ont le même questionnaire. Et en fait, on va vraiment s'adapter s'adapter aussi aux enjeux et aux objectifs de chaque personne. Parce qu'on a
la vie pro et familiale aussi, parce que aussi c'est important, ça fait partie du contexte. Toi qui as des enfants,
moi qui ai des enfants, je sais bien. Voilà. Ça a un impact énorme. Voilà. Vous vivez en ville, vous vivez à la campagne, vous avez la possibilité. On va essayer de s'adapter aussi, c'est-à-dire qu'on va proposer par exemple à certaines personnes qui commencent à être dans des sujets un peu de glycémie, pré-diabète, etc., qui vont un peu grandir, on va essayer de s'adapter au contexte perso. Si la personne nous dit, en fait, je suis à 2 km de mon travail, on va lui proposer d'essayer d'aller à pied ou d'essayer d'aller en vélo le matin au travail, de changer les habitudes. On veut vraiment. L'idée, c'est qu'il y ait une prise de conscience déjà de où je me situe et ensuite qu'il y ait une volonté réelle de la personne de changer les choses. Et donc, plus on va être personnalisé, et c'est pour ça qu'on va prendre en considération. Si on vous dit demain, si vous faites une prise de sang et que je vous dis demain, vous me dites, je bois 6 verres d'alcool par semaine, ce qui n'est sûrement pas votre cas, mais et je vous dis, à partir de maintenant, c'est zéro, ça ne va pas marcher. Parce que je ne me suis pas basé sur votre contexte, c'est parce que ce n'est pas le point. Et donc, du coup, l'objectif réellement, c'est de s'adapter à la personne et pour qu'elle puisse mettre en place des petits changements qui vont avoir des gros impacts.
L'âge biologique, c'est sûr. L'âge biologique, c'est pas pour nous flatter, c'est un vrai résultat.
L'âge biologique, c'est un algorithme déposé. On nous pose toujours la question, est-ce que nous, on a inventé cet âge biologique?
Avec Yoann Durand, à moins de 40 ans, en âge biologique.
Moins de 35, même.
Moins de
33.
On prend 9 marqueurs sur cet âge biologique, et c'est sûr que par rapport aux 110 biomarqueurs, il en manque pas mal, mais c'est juste un très bon raccourci vers chaque personne voit cet âge biologique et se dit, ah, super, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le réduire. Donc, en fait, on peut l'améliorer. Donc, d'un test à l'autre, on peut arriver à faire baisser cet écart. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on, entre guillemets, pousse les gens à améliorer. Parce que, en fait, parfois, dans la formule de l'âge biologique, il y a peut-être l'inflammation. Et donc, c'est un sujet pour les sportifs. Souvent, on fait beaucoup de cardio. On a pas mal d'inflammation. Et donc, du coup, on va baisser l'inflammation. Et l'âge biologique va baisser. Et donc, on voit les progrès. Et on est assez content. Et on a envie de continuer dans ce sens.
Et puisqu'on s'adresse à des coureurs, sachez que Yoann a fait part de sa pathologie aussi avant le bilan sanguin, et avec les douleurs qu'il a récurrentes, etc. Ouais. Et ça aussi, c'est pris en considération par les médecins qui ensuite réalisent l'analyse des marqueurs sanguins, parce que ça aussi a l'intérêt, 110 marqueurs analysés.
Tout est pris en compte.
Et juste dans le concret, vous êtes associé à des labos un peu partout en France, donc que vous habitiez à Bordeaux, je ne sais pas, à La Rochelle, à Nice ou à Paris, vous trouverez des labos partenaires, vous y allez, vous faites votre prise de sang, méfiez-vous parce qu'il y a un nombre de fioles à remplir assez important.
Comme Benoît.
Évitez évidemment la tête qui tourne au bout de 3 minutes parce que c'est ce qui m'est arrivé.
Ça arrive, mais c'est pas très grave. Ça passe très vite.
Exactement.
Ça passe très vite. On lève les jambes.
Tout à fait. 3 semaines d'analyse et ensuite on reçoit les données avec chaque biomarqueur analysé et les conseils qui sont prodigués par l'équipe d'experts.
Le suivi dans le temps, donc c'était important de le dire, mais on va utiliser de l'intelligence artificielle évidemment pour aller regarder toutes les dernières études scientifiques sur l'ensemble des marqueurs. On va matcher comparer tous vos marqueurs ensemble parce qu'il faut souvent regarder les marqueurs par groupe de marqueurs et pas juste un marqueur indépendant. Et ce qui est important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est longitudinal. C'est aussi l'évolution dans le temps. Et donc, c'est pour ça que dans le plan Lucie, on inclut 2 tests. Donc, un test au démarrage et un test autour des 6 mois. Ça va dépendre de ce qu'on a mis en place. Donc, dans votre cas, on va peut-être retester à un moment donné pendant la préparation voir un peu l'impact de la préparation. C'est hyper intéressant, je pense. Et globalement,
je vais y repasser alors.
Prépare-toi.
Et donc globalement, il y a ensuite, une fois que cette analyse est faite par l'intelligence artificielle, elle est relue et corrigée par notre équipe médicale en interne avant d'être délivrée à l'utilisateur. Donc chaque utilisateur, son plan d'action est relu et corrigé par notre équipe médicale. On accélère juste les choses avec l'IA et on flague des choses. On va détecter des choses qu'un médecin à l'œil nu n'aurait pas forcément vu tout de suite ou aurait mis du temps à voir ou il aurait pris pas mal de temps. Et puis il faut une certaine éducation puisqu'on est en médecine préventive. Et ensuite, on va faire le plan d'action et ensuite, à 6 mois, on va proposer de se retester. Et il y a dans certains cas, comme les gens qui font beaucoup de sport, qui sont dans certains contextes, ça peut faire du sens de retester à 3 mois, à 2 mois. Ça va vraiment dépendre. Mais globalement, de manière générale, nous, on est sur un plan de tests par an. Et on est effectivement associé à des réseaux de laboratoires. Mais tout se passe chez nous. L'utilisateur vient chez nous. Et vous prenez votre rendez-vous depuis notre plateforme. Tout est géré. Vous n'avez rien à dire. Vous arrivez au laboratoire.
Vous êtes prioritaire.
Vous êtes prioritaire.
Vous et moi, j'ai rendez-vous. Mais moi aussi, je suis pour Lucie.
C'est le petit bénéfice. Et du coup, vous passez devant tout le monde, vous faites votre prise de sang, ça dure 10 minutes. Et effectivement, on met 2 à 3 semaines pour récupérer les résultats.
Prise de sang et test urinaire aussi.
Urinaire et salive.
Et salivaire.
Avec le cortisol, le matin. Du hormone du stress le matin au réveil.
Exactement. Ouais.
Vous faites les prélèvements chez vous, vous les amenez au laboratoire, on fait la prise de sang. Et ensuite,
c'est vrai qu'il n'y a pas que la prise de sang. Ouais.
Et là, je pense à Anthony et Alice pour qui toutes ces données sont une mine d'or, notamment toi, Alice, parce que d'ailleurs, c'est toi qui nous avais conseillé de nous mettre en relation avec les labos Lucie pour les prises de sang détaillées. Toi, dans ton travail au quotidien, pour savoir où placer les curseurs dans la complémentation alimentaire, c'est une mine d'or, ce nombre de marqueurs analysés et ces résultats obtenus.
C'est hyper intéressant. De manière générale, moi, avec mes patients, je leur demande toujours leur dernière prise de sang la plus récente. Et c'est vrai que là, avec Lucie, quand il y a 110 biomarqueurs, c'est vraiment un régal. Comme ça, ça permet vraiment de voir tous les paramètres, enfin, beaucoup de paramètres sanguins, du moins. Et en plus, il y a l'anamnèse qui est faite, comme on disait avant, avec toutes les questions qui traitent de plein de domaines, des régimes alimentaires, du sommeil, du mode de vie, qui permettent vraiment de remettre dans le contexte chaque personne. Il y a le test urinaire, le test de cortisol au réveil et 30 minutes après le réveil, ce qui permet vraiment d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de données et de pouvoir après les traiter et pouvoir travailler avec ça pour faire de la prévention et aussi une amélioration des habitudes alimentaires pour pouvoir améliorer un peu ces paramètres sanguins s'ils sont hors normes, quoi. S'ils ne sont pas trop dans les clous, on peut se dire « Ah, bah là, on fait un peu plus attention à ce niveau-là » parce qu'on voit qu'au niveau métabolique, il y a plusieurs biomarqueurs qui sont pas trop dans les normes. Parce que c'est avec Lucie, c'est dosé sous forme de... Enfin, il y a plusieurs... Il y a plusieurs systèmes qui sont mis. Il y a cardiovasculaire, il y a santé sexuelle de mémoire, il y a métabolique. Il y en a 10, il me semble. Et du coup, il y a tout ça et on peut voir... on peut vraiment les traiter indépendamment. Et c'est hyper intéressant de travailler avec autant de données.
Et dès que vous recevez le bilan, vous avez des conseils d'ailleurs à appliquer directement sur votre alimentation ou votre mode de vie. Entrons un peu dans le concret, Alice, parce que tu as eu la chance de voir comme ça nos résultats, à Yodu et à moi. Est-ce que tu as tiré comme ça quelques enseignements déjà ou est-ce qu'il faudra complémenter justement avec des rendez-vous pour discuter un peu de tout ça et de la stratégie nutritive à mettre en place ?
Au niveau du Yodu, il y a quand même un gros paramètre qui ressort, c'est au niveau cardiovasculaire où il y a parce que chaque donnée est aussi donnée avec un score, et c'est vrai qu'on a un score de 42 et à chaque fois c'est sur 100, donc 42 c'est vrai que c'est un score qui est plutôt bas, et quand on regarde vraiment de plus près, de plus près les données des biomarqueurs, c'est vrai qu'on voit qu'il y a au niveau de tout ce qui va être LDL, le LDL cholestérol ou la lipoprotéine A qui sont des marqueurs au niveau de tout ce qui est cholestérol, matière grasse, qui peuvent être pas forcément dans les normes, donc c'est vrai qu'on peut s'intéresser un peu à ça et se dire bon, au niveau nutritionnel, peut-être qu'il va falloir ajouter des choses et diminuer certains groupes d'aliments au profit d'autres pour pouvoir peut-être essayer de rééquilibrer au mieux possible, sachant qu'il y a toujours des biomarqueurs qui sont aussi liés à la génétique, c'est pas forcément toujours que l'alimentation, mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, on peut déjà faire un travail sur ça, sur les habitudes alimentaires, qui peut être vraiment intéressant et qui permettra aussi de rééquilibrer du coup le mieux possible pour le prochain test sanguin de Yodu. Et sur cette
juste Johan, ça fait 95 jours sans beurre. C'est bon ça.
Sans gras, sans beurre, avec des macros et des.
Voilà. Tu as mangé de la sardine, et de la sardine nature comme ça, avec un peu de sel comme ça.
Juste, que la sardine.
Magnifique. Non mais juste
un peu d'huile d'olive.
Un peu d'huile d'olive
parce que ça c'est toujours conseillé, tout à fait. Est-ce que tu étais surpris de tes résultats, Johan, quand tu les as vus, ou est-ce que tu connaissais cette pathologie liée au cholestérol ?
Non, je l'avais découvert il y a 3 ou 4 mois quand j'avais fait une prise de sang et que là je dépassais cette norme là donc je l'avais déjà vu il y a
t'as une raison ma dernière... particulière ou pas
c'est que je suis un gros sac pas à l'extérieur parce que je suis malin mais à l'intérieur la raison Alice on en discutera mais certes oui il y a des choses à changer dans mon alimentation on va partir de là mais c'est ultra intéressant. C'est très très intéressant parce que je le savais sur la dernière prise de sang, mais là Je vois que ça a évolué encore plus dans le mauvais sens en 3 mois. Et donc, je vais tout faire pour revenir sur des normes un petit peu classiques. Ouais.
Je vous rappelle qu'il me parlait de raclette et de tartiflette il y a 10 minutes. Hein, donc bon, tout ça, on va se calmer peut-être.
C'est la dernière.
Mais c'est dans pour ça que c'est bien de faire la prise de sang. C'est vraiment bien de faire la prise de sang en amont de toute la prépa, parce bien que sûr. Ça permet vraiment de... Tu vois, si on fait au milieu de la prépa, finalement, on n'aura pas forcément le temps ou les leviers nécessaires pour améliorer ces paramètres. Alors que là, en le faisant 14 semaines avant la prise de sang, on a vraiment le temps quand même d'avoir des effets bénéfiques en mettant en place des petites habitudes alimentaires au quotidien et en changeant des choses dans l'assiette, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool de l'avoir fait avant et de pouvoir le voir maintenant.
Qu'est-ce que tu as constaté sur les miennes, Alice, alors ? Mon âge biologique déjà,
alors,
28
ans. Marque...
Pas mal, hein.
Il y avait des marqueurs d'inflammation qui étaient un peu élevés, donc ça peut peut-être être sur l'inflammation qu'on peut travailler, donc plus peut-être manger d'aliments qui vont être antioxydants, diminuer certains aliments qui vont être inflammatoires pour pouvoir justement rééquilibrer l'inflammation, parce qu'en plus là, comme tu vas rentrer dans une prépa marathon, il faut savoir que le sport est oxydatif pour l'organisme aussi, et du coup le sport peut accélérer une certaine inflammation au niveau cellulaire, donc si t'es déjà un peu inflammé au niveau de certaines cellules, faire encore plus de sport dessus, ça peut encore plus accélérer cette inflammation. Donc là, on peut se dire, bah, vraiment, au niveau de tout ce qui va être antioxydant et d'aliments qui vont permettre de réduire cette inflammation, ou au contraire d'autres qui peuvent accélérer, qu'on va appeler des aliments pro-inflammatoires, bah, au niveau de tout ça, on peut essayer de rééquilibrer pour diminuer cette inflammation, parce que l'inflammation peut aussi être, pendant une prépa ou à terme, être cause de blessures, parce que l'inflammation dans le corps, après, ça peut se manifester par la blessure, et c'est ce qui est aussi redouté chez les sportifs, donc ce serait bien qu'on n'arrive pas là, et donc c'est sur ce point qu'on pourra regarder pour améliorer certaines choses.
Merci chef. Anthony, je te voyais acquiescer tout ce qui était dit par Alice, mais c'est une des premières questions que vous nous avez posées aussi avec Joseph. C'est déjà, est-ce que vous avez le temps de bien dormir ? C'était vraiment la première question. Le sommeil, ça a une part prépondérante dans une prépa marathon. Mais toutes ces données alimentaires, certaines carences à combler comme ça va être essentiel dans le suivi de ces préparations, même pour vous, hein, pour Enduro, Anthony.
Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait du test physiologique, mais c'est vrai que ce test justement biologique, il est hyper important. L'entraînement, finalement, c'est un équilibre, hein, sommeil, nutrition et l'entraînement en tant que tel. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a des marqueurs qui sont du coup parfois problématiques, justement. On se pose la question de comment on va les remettre dans la norme, mais c'est aussi intéressant de se demander pourquoi ils sont problématiques. Et donc, nous, un peu notre rôle, c'est déjà d'une part de se dire, OK, on a eu ce marqueur qui est étrange au début, regardons en arrière, quelle a été la charge. Donc là, on reprend les séances, on reprend le calcul de charge, on regarde est-ce que la personne s'est entrée dans la bonne zone relativement au test qui a été imposé et surtout relativement aux éléments extérieurs, en réanalysant profondément les séances. Et c'est après de s'assurer que justement, avec le coach, qu'on est capable de le charger et de quelles intensités on peut le charger par rapport à ce qui est observé. Si Alice nous met un stop, nous dit « attention, là, les marqueurs inflammatoires sont trop importants », on l'écoute tout de suite et on se dit qu'on attend un petit peu. Donc voilà, Alice va aussi être là pour équilibrer et nous permettre en fait de bien utiliser les données d'entraînement.
On parlait, Alice, de poids de forme. Ça me concerne plus que Johan, parce que Johan se connaît parfaitement. Il fait déjà 60 kilos, donc ça va être dur de baisser le total comme ça. Pareil, comment déterminer un poids de forme pour moi, par exemple, qui suis persuadé qu'il y a des kilos en trop, alors que j'ai fait beaucoup de prépa marathon de ces dernières années. Comment on va déterminer ça ensemble, d'ailleurs, avec les équipes d'Anto et de Joseph, et avec toi ?
Alors pour moi, le poids de forme, il se détermine aussi sur l'expérience et donc sur les courses que tu as déjà bien faites et réussies, donc potentiellement sur tes records. Parce qu'avec le poids de forme, il faut faire attention. Si tu es un peu en dessous du poids de forme, tu peux aussi être trop fatigué. Donc déterminer un poids de forme comme ça, je vais dire à l'œil nu, c'est pas possible. Enfin, c'est pas cohérent parce que ça va dépendre vraiment de toi, comment tu te sens sur tes entraînements, sur les courses et du coup les records et où tu peux le plus pousser, quoi. Donc ça va aussi dépendre de tes sensations. Sachant que sur une prépa marathon, pour moi, il y a toujours une perte de poids qui va être faite par rapport au volume kilométrique, à la charge d'entraînement. En fait, que là, il y aura peut-être de la prépa physique qui va être intégrée, un peu de renfo et tout. Donc, il y aura quand même une diminution et de l'affûtage du poids. Et après, pour moi, il y a quand même beaucoup l'expérience qui joue et le fait que tu aies déjà fait des courses en amont qui te font dire qu'à ce poids, tu te sens quand même vraiment bien en forme, quoi.
Bon, à suivre, faire à suivre. On verra où on en est sur cette question de poids. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, Johan, ou non ? Pas particulièrement en ce moment, depuis quelques semaines et quelques mois.
Si, bah, je prenais du collagène par rapport à mes problèmes de tendons d'Achille pour tout ce qui était articulaire et tendineux. Bah, je pense qu'on va complémenter en oméga 3 aussi et des choses comme ça. On va voir avec, ouais. Avec Alice. Mais après, j'étais sur une période où justement... Bah, La prise de sang va permettre de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter ou pas, comment je peux modifier mon assiette. Et là, j'étais dans une période où j'avais pas d'objectif. Je m'entraînais pas. Tu prends pas du fer ou n'importe quoi si tu connais pas, si t'as pas de prise de sang ou si t'as pas d'objectif. C'est voilà, il faut pas prendre des compléments alimentaires pour prendre des compléments alimentaires. Il faut que voilà, maintenant on a la photographie, on sait. Et à partir de maintenant, on peut peut-être complémenter, voir si tout peut passer par l'alimentation ou s'il faut justement se complémenter. Ouais.
Exactement. Et ce sera un suivi régulier à suivre donc dans RMC Running, les entretiens et les échanges avec Alice, avec Anto, avec Joseph sur tous ces sujets-là. On vous a donc parlé de l'intérêt de faire des bilans sanguins avec Lucie. Et pour marquer le coup sur ce premier épisode de l'opération La Dernière Danse, je remercie d'ailleurs Max qui va vous faire bénéficier d'un test à gagner. Voilà, ça a une certaine valeur. Je précise que ça vaut 500€ de faire deux tests comme ça, deux bilans sanguins complets à 6 mois d'intervalle. Donc, magnifique cadeau dès ce premier épisode de La Dernière Danse. Vous participez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram notamment, le compte RMC
Running. C'est un vrai beau cadeau parce que c'est rare, ça.
Exactement. Il y aura d'autres cadeaux tout au long de la prépa, mais celui-là est très beau. Donc, Max, on te remercie. Et ça aidera un runner ou une runneuse qui nous écoute. Voilà, c'est vraiment une base de travail magnifique. On peut passer au sujet justement à traiter grâce à nos amis d'Enduro et à Anthony. On voulait démarrer, il y aura plein de sujets à aborder tout au long de cette préparation. Il y aura 14 semaines d'entraînement, il y a plein de sujets qui seront abordés, donc les tests physio, la progressivité dans l'entraînement, les courses et la nutrition en course, tout ça c'est des sujets qui vont vous passionner. Mais on voulait démarrer par un sujet de données pures, Anthony. Les données des montres, voilà, les montres connectées, désormais c'est un outil indispensable pour tous les coureurs qui nous écoutent. Un champ de données qui est interminable et qui est
tu peux
avoir toutes les données que tu veux. On voulait faire le point avec toi sur les vraies données importantes à utiliser lorsque vous avez une montre connectée et quelles sont les données pertinentes à exploiter lorsque vous êtes coureur comme ça, amateur, et que vous voulez avoir une idée précise de ce que vous mettez en place à l'entraînement.
Bah déjà, petite question pour Yodu et pour toi, Ben. Quelles sont les deux données que vous regardez le plus à l'entraînement quand vous rentrez ? Vous uploadez votre sortie sur Strava. Qu'est-ce que vous regardez en premier ?
Moi, allure et fréquence cardiaque quand j'ai la ceinture.
Pareil, ouais. Distance quand même. Distance et fréquence cardiaque, toujours.
Ouais, la distance reste une donnée, c'est vrai qu'on peut l'oublier parfois, mais au final, cette allure, cette fréquence cardiaque, on les regarde sur Strava, mais on a rarement une corrélation. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que soit on va regarder sur sa montre un peu son lap en disant, OK, bon, bah là, j'ai fait mes 4 km allure marathon, je les ai fait à 162, 163 km, mais au final, on peut avoir commencé à 157, avoir fini à 165, pardon, et. C'est finalement un intervalle qui n'a pas été réellement couru à 162 BPM. Donc ça, c'est des choses qui vont être hyper intéressantes à traquer. Donc nous, en fait, chez Enduro, on essaye de se dire, on a un amas de données conséquent, et je ne vous raconte même pas, dès qu'on essaye de le traiter en ordinateur, ça part dans tous les sens, on essaye de prendre justement les champs et de les corréler entre eux. Donc typiquement, moi, il y a une donnée que j'aime bien aussi, qui est la cadence, parce que ça va nous permettre de voir si mécaniquement, avec la fatigue, on vient surcadencer, sous-cadencer. Et ça, c'est des choses qui, sur un marathon, sont vraiment importantes. Être musculairement fort, aujourd'hui, on peut passer des heures à la salle. Avec quelles données on constate qu'on a vraiment progressé en fait sur son marathon en ayant passé des heures à la salle? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, nous, on développe des outils pour ça, pour aller chercher un petit peu plus loin. Yodu, je sais que tu es un fan de fartlek aussi.
Oui. Ah oui, ça, il adore. Ah oui, quelle horreur.
Si tu donnes aujourd'hui un fartlek à Benoît, comment tu vas finalement interpréter ça? Parce que Benoît, alors, il est passé par la Corse aussi, il a fait des montées et des descentes.
Il me donne jamais d'allure, le coquin, tu sais. Sur les fartleks, je me débrouille toujours tout seul. Hein. Sur les allures, il me dit tu te débrouilles. Voilà, des 2, 3, 4, 5 minutes et après dégressif, jamais d'allure précisée, quoi. Oh ce coach.
Non, mais parce que là, on est loin de l'objectif et que monsieur était en vacances à l'autre bout du monde. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que oui, moi, je suis un adepte du fartlek. Bah, c'est peut-être mes séjours au Kenya qui m'ont beaucoup marqué, où beaucoup de coureurs courent à la sensation et justement font minimum deux fartleks par semaine, le mardi et jeudi généralement. Et
fartlek, on peut rappeler à ceux qui nous écoutent qui sont pas très calés sur les expressions,
c'est du fractionné en nature sur un temps d'effort
en sensation,
soit aux sensations soit à l'allure, parce que tu peux quand même toujours regarder l'allure, mais ça peut être sur des parcours un peu vallonnés, des parcours différents que tu as l'habitude. C'est pas sur piste, c'est pas un fractionné sur piste comme 12 fois 400 mètres que tu vas faire à 100% de ta VMA et tu sais à quel chrono tu dois les faire. Là, je laisse libre cours à tes sensations et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est resté que de mes différents séjours au Kenya. Mais voilà, pour la préparation marathon, je sais que j'en fais beaucoup moins. Et là, pour le coup, après, les allures sont beaucoup plus calibrées. Mais c'est vrai que la difficulté du fartlek, après, c'est d'être capable de sortir une allure et par rapport au dénivelé, par rapport aux sensations que tu as mises et tout. Et c'est pas toujours évident, ouais.
Et surtout, c'est intéressant d'en parler aussi avec Alice, parce que Alice, on l'a dit, elle est diététicienne nutritionniste, mais elle est surtout très bonne coureuse. Voilà, Alice, pour vous donner un ordre d'idée, elle vient de s'envoyer 2 semaines à 140 km semaine. Donc moi, j'aimerais bien qu'on te pose la question à toi aussi, Alice, parce que tu fais partie d'un club, tu es coachée par Nico, d'ailleurs, ton compagnon qu'on salue, qu'on embrasse, qui est un très bon coureur sur marathon aussi. Quelles sont les données que tu prends en compte, toi, quand tu cours, quand tu rentres de ta sortie sur ta montre?
Moi, j'aurais dit distance et allure avant que vous répondiez. Ouais.
Ah, plus que le cardio. Et le là, cardio, tu l'observes pas?
Eh ben, le cardio, figure-toi que je l'ai pas mis pendant un mois et demi, là, tout juillet et tout première quinzaine d'août, je l'ai pas mis parce que là, je l'ai remis il y a 15 jours. Ouais. Mais je le mets, là, je l'ai pas mis parce que je voulais remonter, refaire un peu d'entraînement et tout avant de le remettre. Et je m'intéresse vraiment au cardio quand je commence à aller dans une prépa et que je commence à me dire, bon, là, faut que je commence à regarder le cardio. Mais plus, si j'aurais le cardio, ça va plus être sur les footings que sur une séance, tu vois. Parce que comme ça, sur les footings, je trouve que ça me donne un bon indicateur de savoir si je suis en forme, et du coup, c'est-à-dire que le cardio est un peu plus bas que d'habitude, ou alors si je suis un peu fatiguée. Dans ce cas-là, le cardio, des fois, peut être un peu plus haut que d'habitude. Donc, je le regarde quand je suis vraiment au cœur de la prépa et qu'à l'approche de la course. Ouais.
Ah, c'est marrant, ça, tu vois, c'est des approches différentes, Anthony.
Ouais, complètement, des approches différentes, mais tout aussi pertinentes. Enfin, Alice a raison, il faut aussi savoir se déconnecter du cardio et pas être 100% dessus tout le temps. Il y a des phases où le cardio, il est indispensable. Quand on approche du spécifique, clairement, si on est 3-4 battements au-dessus, il faut savoir aussi réguler son allure. On voit des athlètes qui se disent « Ouais, je suis bien dans l'allure, le jour du marathon, ça va passer, le cardio, il est bon. » Mais en fait, avec 3 BPM de moins, ils auraient optimisé. Et il n'y aurait eu que 3-4 secondes au kilo de différence. Et au final, peut-être, au lieu de faire 3h03, ils auraient pu faire 2h58. Donc ça, c'est des changements hyper importants. Donc voilà. Mais la question de cette allure, c'est justement comment on l'utilise en séance aussi, hein, parce que là, sur les footings, c'est bien, on est à intensité moyenne. Mais dès qu'on casse en fait l'intensité, il faut avoir un cardio qui est réactif. Donc il faut être bien équipé avec une ceinture ou un brassard au biceps aussi. Et après, bah, justement, pouvoir vraiment le lire. Et c'est là qu'on a développé des outils et je pourrais éventuellement vous faire quelques petites démonstrations aussi.
Alors ça, c'est ce qui nous intéresse. Effectivement, tu vas nous montrer. Et dis-moi juste pourquoi la cadence est si importante pour toi. Et toi, Yoann, est-ce que tu la regardes, la cadence, par exemple?
Non.
Jamais, ouais.
Non, jamais.
La cadence, c'est le nombre de pas par minute, hein, c'est ça, Anthony?
Moi, je ne regarde pas, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un avis personnel aussi. Et que en fait, courir, c'est à la fois une réponse physiologique, mais c'est aussi une réponse mécanique. Quand on fatigue, forcément, on va se mettre à sur- ou sous-cadencer. En ultra, notamment, si on compare un début et une fin de course, on remarque qu'en fait, en fin de course, les athlètes surcadencent beaucoup. Ils font plein de petits pas. Certains, à l'inverse, sous-cadencent. C'est parce qu'ils vont se retrouver à avoir un manque d'élasticité dans les jambes. Donc en fait, c'est des marqueurs qui témoignent d'un dérèglement biomécanique, quoi qu'il en soit. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas adapté à l'allure qu'on est en train de tenir. Si le cardio diminue en fin de marathon parce qu'on est trop fatigué, c'est une donnée intéressante. Si la cadence diminue aussi, c'est aussi une donnée intéressante. On n'est pas 100% adapté à l'effort qu'on est en train de produire.
Et tu as une cadence optimale pour chacun ou c'est adapté à la foulée de Johan, d'Alice ou à la mienne?
Ah, ça va vraiment être propre à chacun, à chaque foulée, et je pourrais même pousser le trait à chaque chaussure. Ça, d'ailleurs, c'est aussi un test qu'on fera avec Johan, je pense, sur tapis, hein, pour voir quelle chaussure finalement te permet de faire performer le mieux. Il y a des super modèles chez ASICS, mais toi, Johan, de quel tu as besoin pour Valence?
Ça va être super intéressant.
Et ça, on le suivra, effectivement, parce le matériel,
effectivement,
c'est important.
Chez ASICS, on a 3 paires de modèles qui peuvent être utilisés pour le marathon. On a la Metaspeed Sky, Edge ou Ray, qui est la plus légère, qui fait 125 grammes.
125 grammes, imaginez-vous. 127, hein, 120, on l'a déjà sous-pesé. Enfin, moi, je ne l'ai jamais porté. Toi, tu l'as déjà porté.
Et
mais
du coup, pour ce dernier marathon, je suis un peu dans le doute parce que jusqu'à présent, je fonctionnais avec la Edge. Et comme elle évolue sans arrêt et qu'il y a eu cette nouveauté, c'est celle qu'on voit sur les images pour ceux qui sont sur YouTube.
Sur YouTube, ouais.
Ça, c'est la Ray. Et quand on sait que le poids de la chaussure est un allié, enfin, plus la chaussure est légère et les dernières études ont montré que c'était vraiment ce qui pouvait expliquer les performances, et on le voit aujourd'hui avec les deux hommes qui ont couru moins de 2 heures au marathon. Ils avaient des chaussures ultra light, donc la question se pose.
Et vas-y, Anthony, tu peux nous montrer les champs de données analysés par Enduro, comme ça pour traiter les données des montres, ça peut donner des indications à ceux qui nous écoutent.
Bien sûr, alors je vais vous montrer je vais passer un portage.
Je précise à ceux qui nous écoutent que vous irez regarder ça sur YouTube. Ça sera beaucoup plus clair, même si on va essayer de vous décrire les images.
Oui, bien sûr. Alors, pour YouTube, je vais vous décrire un petit peu quand même. Hein, mais globalement, nous, comment on travaille chez Enduro, c'est qu'on travaille avec Jatool Strava. Hein. On travaille, c'est vraiment avec ça qu'on analyse un peu les données d'entraînement passées depuis des années. On va déterminer un petit peu vos points forts, vos points faibles. Est-ce que vous êtes bon en montée? Est-ce que vous êtes bon en descente? Ça, c'est un point qui est important. Savoir si, notamment sur un marathon qui est qui est dénivelé à Paris, par exemple, est-ce que sur votre pacing, il faut ralentir en montée, ralentir en descente? Est-ce que certains athlètes vont être meilleurs finalement avec du dénivelé parce que ça va leur permettre de bien relancer en descente, etc. Mais surtout au niveau des données, des données de la montre, parce que votre Strava est une mine d'or, on s'en sert déjà là, mais surtout au niveau des données des séances, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est de voir l'évolution. Alors par exemple, là, je vais vous prendre une séance, hein, on retrouve une séance, un format de séance assez classique, des 2x2000, 2x1000, 2x500, avec des allures qui sont progressives. Donc là, on va nous pouvoir aller regarder effectivement la progressivité des allures, ça c'est des choses qui sont faites, mais aussi l'évolution de la fréquence cardiaque au cours des allures. Donc a priori, là, sur cette séance-là, les allures sont parfaitement respectées, on a bien quelque chose de progressif, un athlète qui va de plus en plus vite, par contre on a une saturation cardio dès le deuxième effort. Donc en fait, si on s'intéresse à l'indice d'efficience qui correspond à l'efficacité d'effort de l'athlète, donc son allure par rapport à son cardio, on voit qu'il y a une augmentation et donc il y a une détérioration de l'athlète parce que il va une amélioration de l'athlète parce qu'il va plus vite à une même fréquence cardiaque. Donc ça c'est hyper intéressant. Il arrive à stabiliser sa fréquence cardiaque en augmentant son allure.
Ce qui est un signe d'amélioration de la forme, quoi. Ça, c'est sûr. Dès que le cardio, vous arrivez à le maintenir et en allant plus vite, c'est que ça prouve que vous êtes en train de progresser. Ouais, ça, c'est sûr.
Tout à fait. Maintenant, donc ça, c'était pour une séance route vraiment avec des distances bien définies. Et nous, maintenant, ce qu'on va s'intéresser, donc c'était ces séances un peu fartlek, justement, terrain vallonné. Donc ici, vous avez les différents intervalles qui ont été courus. Alors la consigne là pour l'athlète était de faire 2 blocs avec des intervalles de 45 secondes ou une minute au choix. On aime bien se challenger pour développer des outils, donc on essaie de le faire en terrain vallonné. Les montées et les descentes en fond. Et là on s'est dit comment on peut voir si l'athlète a fait régulier sur sa séance. Alors ce qu'on va regarder c'est l'allure réelle. Donc les consignes étaient de tourner autour de 3,55 d'allure moyenne à peu près, sur une intensité similaire. Donc en fait, là, l'athlète sur ses répétitions, il peut descendre à du 4,17 par kilomètre, mais il est aussi monté à 3,28.
Oui, c'est lié à la pente, là justement à la pente, c'est la variabilité.
Alors, là justement, c'est sa vitesse réelle, c'est son allure réelle. Donc comment nous on se dit sur ces allures-là, est-ce qu'il a vraiment respecté la consigne? Eh bien là, on vient calculer l'allure ajustée à la pente. Et là, on voit que globalement, en fait, sur toutes ses premières répétitions, 3,55, 3,51, 3,56, 3,55, il a un petit peu accéléré. Et puis 3,55, et en fait, on est autour de 3,55 tout au long de la séance, un petit peu même au-dessus.
Donc il a respecté la consigne.
C'est une bonne validation de la séance.
On est
là-dessus. Ensuite, en termes de cardio, on voit que le cardio a augmenté progressivement, donc des 4 premiers qui sont en descente, donc avec un cardio plus bas, et ensuite, on observe une dérive cardiaque qui est en fait assez linéaire. Il y a une augmentation sur celui-ci, puisqu'il était un petit peu plus en montée, mais sinon on a une augmentation de voilà, 171, 174, 174, 177, 178. À la fin, ça redescend un peu parce qu'il est en descente, mais là, on a bien une dérive qui est associée à une séance de fartlek qui va viser à atteindre VO2 max avec des intervalles. Donc ça, c'est aussi une bonne constatation. Concrètement, si on regarde après l'indice d'efficience, on est sur quelque chose d'assez constant, donc un ratio entre les battements par minute et l'allure qui est relativement constant avec une perte sur la fin puisqu'on a atteint VO2 max et que l'athlète a fatigué. Là, pour nous, c'est un moyen de valider une séance et de communiquer au coach, par exemple.
Alors, autre question, quand on élargira un peu le spectre et qui sera intéressant après les semaines d'entraînement, c'est est-ce que vous saurez déterminer le pic de forme ? Parce qu'on parle souvent de pic de forme avec Johan dans les prépas marathon. Déterminer si un athlète est toujours en progression, si jamais le pic est atteint, comment le repousser si jamais il arrive trop tôt dans la préparation. Avec toutes ces données qui, je le précise, sont fournies par les montres et ensuite étudiées par Enduro, vous saurez déterminer justement si la forme monte trop vite ou pas assez vite, etc.
Alors, ce qui va être intéressant pour déterminer le pic de forme, et là, alors, c'est en fait de se servir de toute l'archive de Johan. Donc, en fait, là, si on s'intéresse.
Il y a 20 ans de haut niveau, hein, bon courage.
Ah ouais, bien sûr. Mais là, du coup, je reviens sur la séance, sur une séance d'allure, par exemple. Donc, là, vous pouvez normalement voir à l'écran une séance donc, avec 6 répétitions. Avec des allures qui sont représentées. Donc, j'ai l'allure du bloc 1 ici en bleu clair et l'allure médiane en blanc sur la séance. Et je peux voir si tenir en fait ces allures à chaque fois. Donc, là, ouais, il y a des variations d'allure hein, au sein du bloc. Hein. On est sur des variations de 3 à 4 secondes du kilomètre à chaque fois. Donc, c'est des allures qui sont tenues régulièrement. Et à la fin, par exemple, sur ce dernier intervalle, on voit une diminution assez forte. Ça, c'est des choses qu'on va venir constater en fait sur les séances spécifiques de Yodu et de toi, Ben, et on va venir les comparer à tout ce que tu as fait avant. Donc, toi, vous êtes humain. Donc, en fait, vous allez pouvoir nous dire, ce jour-là, j'étais dans la forme de ma vie quand j'ai fait cette prépa. Et donc, en fait, on va pouvoir venir analyser cette séance et on va se dire, d'accord, donc en fait, à ce moment-là, je tenais ces allures sur tant de temps, sans fatigue. Nous, on va donc venir voir si c'est le cas et on va voir le ratio particulièrement entre la fréquence cardiaque et l'allure maintenue. Si on arrive à atteindre des ratios similaires, c'est parfait. Si on atteint des ratios meilleurs, c'est encore mieux. Par contre, si on atteint des ratios en dessous, on peut dire que là, il y a de la fatigue et qu'on n'est plus capable de tenir des efforts comme avant. Et ça, du coup, on va le remettre en question et on va essayer de jouer dessus avec le coach.
Et ben voilà, écoutez, allez consommer tout cela sur YouTube parce que là, il y avait vraiment les courbes et les graphiques qui étaient très bien expliqués par Anthony. Et... pour conclure sur ce sujet, juste Anto, si tu dois donner les données prioritaires à regarder sur une montre quand on est coureur amateur et qu'on veut suivre sa progression, alors quelles sont-elles ? Alors, tu dirais ce qu'on a dit nous, c'est-à-dire la vitesse, le cardio et la cadence quand même, tu intégrerais la cadence alors ?
Alors vraiment, une des premières données à regarder restera le volume global. Donc, alors c'est pas sur une séance à proprement parler, mais sur l'étendue, sur le volume pour pas en faire trop. Ça c'est clairement et sur des mois, hein, parce que ça c'est clairement un des facteurs limitants d'énormément de monde. Les gens qui en font trop, on parle souvent de progressivité à l'entraînement. Respectez ça. Ça, c'est vraiment clé. Et dosez bien votre charge aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire, hein, en montée, en descente, etc. Mais je pense que quand on travaille sur route, quand on travaille sur du marathon, l'allure devient prioritaire. Quand on travaille sur du plaisir, je pense que le cardio l'est. Et voilà, j'aime la cadence, mais je pense qu'il faut rester au basique dans le contexte associé.
Voilà, n'allez pas chercher la donnée magique, ça sert à rien.
Non.
Voilà, finalement, faites-vous confiance et surveillez les données prioritaires. C'était passionnant, voilà, de débunker ce sujet. Tu voulais rajouter quelque chose, Anto ? Vas-y.
Ouais, surtout, soyez malin, c'est-à-dire que les données, il ne faut pas en être prisonnier non plus. C'est-à-dire que la plupart du temps, il faut rester libre, il faut écouter son corps. On parle aussi avec des tests, on parle de seuil ventilatoire. Je pense que la respiration, c'est aussi un bon indicateur. C'est pas une donnée chiffrée quand on est amateur chez soi, mais rien que faites vos footings en aisance et déterminez. Vous pouvez vous jouer aussi et déterminer un petit peu les allures à partir desquelles vous commencez à être un peu trop dans le dur. Et ayez en tête ça aussi pour quantifier un peu votre charge d'entraînement, c'est intéressant. Voilà.
Exactement.
C'est pas du chiffré, mais je pense que c'est clé pour s'entraîner avec plaisir.
Tu valides les conseils, coach ?
Tout à fait.
Bon.
C'est les conseils qu'on va suivre pendant toute cette prépa. Ouais.
T'es prêt ? T'es motivé ?
Comme jamais.
Et ben voilà, la dernière danse est lancée. Donc la dernière danse de Johan Durand, le marathon de Valence, le dernier marathon haute performance. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Anthony Saliou, merci Alice Michel d'avoir été là. On reste connectés tout au long de cette prépa, notamment sur les réseaux sociaux d'RMC Running. Un grand merci à Max Berthelot. On reste connectés aussi.
Merci. Hein, bah, on reste
à
connecté.
Travers ces bilans
J'ai
sanguins.
J'ai hâte de voir la suite.
Ah bah tu verras ça. Ouais. Et merci pour ce magnifique cadeau, je le rappelle. Donc un bilan sanguin complet à gagner. Avec les labos Lucie, vous partagez, enfin vous participez sur les réseaux, notamment Instagram. Merci Maître Yodu, merci l'athlète Johan Durand.
Allez,
bonne semaine d'entraînement.
Ouais, on se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine, tout à fait.
On va aller s'entraîner.
Voilà.
Et manger du poisson. Et,
ouais, des sardines. Et puis le beurre. C'est terminé le beurre. Terminé. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.